Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Vers une économie verte pour un développement durable et l'éradication de la pauvreté est le titre d'un rapport publié cette année par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le PNUE révèle dans son rapport qu'investir 2% du PIB mondial dans 10 secteurs clés permettrait de mettre en œuvre la transition vers une économie verte caractérisée par des faibles émissions de carbone et l'utilisation efficace des ressources. Vous suivrez au cours de ce magazine les explications de Christophe Bouvier, le directeur du bureau européen du PNUE, dans un entretien avec Alpha Diallo. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani.
Ce que le rapport montre, c'est que le passage à une économie verte, c'est-à-dire que nous la définissons comme étant à la fois une qui contribue à l'amélioration du bien-être économique, aussi à l'équité sociale, tout en permettant une gestion durable de nos ressources naturelles et la réduction de tous les risques qui sont associés à la gestion actuelle de nos ressources comme nous le faisons actuellement, pourrait permettre donc, avec seulement 2%, en réorientant seulement 2% du produit intérieur brut mondial, d'obtenir donc à la fois une décroissance de certains facteurs problématiques, comme par exemple la diminution de 50% des émissions de carbone, et aussi une croissance beaucoup plus stable jusqu'en 2050, dans un contexte où aussi les emplois se maintiendraient, mais la qualité des emplois, c'est la chose la plus importante, augmenterait. Et ceci, évidemment, surtout dans les pays les plus pauvres.
Le premier constat de ce rapport, c'est qu'il remet en cause le mythe de l'arbitrage entre investissements environnementaux et croissance économique. Qu'est-ce qui fait la pertinence, en fait, d'une économie verte?
Je crois que l'un des éléments les plus pertinents, c'est précisément de détruire ce mythe d'un contraste entre la croissance économique, les possibilités d'emploi et le maintien de notre capital naturel. Alors que nous nous dirigeons vers une réunion importante à Rio en 2012, où il sera question justement de la nouvelle vision pour le développement durable, il est le moment de penser à comment on peut envisager l'amélioration du bien-être des populations mondiales, qu'elles soient dans les pays en développement ou dans les pays industrialisés, en dehors de cette illusion qu'il faut compenser la croissance économique avec des coûts sociaux et des coûts environnementaux. Bien au contraire, il s'agit de gérer notre capital naturel d'une façon qui soit durable, en comptant ce capital comme on le fait pour le capital financier en particulier, peut-être même, je l'espère, avec plus de sagesse.
Et en termes de croissance verte, quelle est-il de la rentabilité? C'est-à-dire, quelles sont les prévisions en termes d'années pour que les gens puissent bénéficier des fruits de cette croissance?
Les prévisions qui sont dans le rapport démontrent que pendant les premières années, si on investit, donc, ou plutôt si on réinvestit, parce qu'il ne s'agit pas d'argent supplémentaire, il s'agit, par exemple, d'éliminer certaines subventions perverses qui coûtent à l'État, mais qui ont comme effet, par exemple, d'augmenter la consommation du pétrole ou du gaz. Donc, si l'on se dirige dans cette voie, à partir de la cinquième année, le taux de croissance au niveau mondial, évidemment, ce sont des généralités au niveau mondial. Il faut voir les situations spécifiques de chaque pays et de chaque secteur. Mais d'une façon générale, à partir de la cinquième année, le taux de croissance non seulement est supérieur à celui d'une situation où on n'investirait pas dans l'économie verte, mais aussi est beaucoup plus durable. C'est-à-dire que le taux de croissance tend à diminuer jusqu'en, disons, 2030-2035, dans un scénario de ce que nous appelons l'économie brune, c'est-à-dire l'économie qui est encore fondée sur les principes d'hier, alors qu'elle devient plus stable et plus élevée lorsqu'elle est fondée sur une économie que nous appelons l'économie verte, tout simplement l'économie de l'avenir.
Le rapport évalue la moyenne annuelle de cet investissement à 1,3 milliard de dollars. Mais comment êtes-vous arrivé à ce scénario?
C'est un chiffre moyen entre diverses études qui ont été faites par nous et par d'autres sur les investissements qui sont nécessaires dans une dizaine de secteurs. Donc nous avons fait cette étude secteur par secteur. Il y a des secteurs qui sont plus affectés que d'autres, des secteurs qui sont très prometteurs immédiatement en termes d'emploi. Puisque nous parlions d'emploi tout à l'heure, je vais prendre deux secteurs. Le secteur, par exemple, des pêcheries, où il est clair que, étant donné que les réserves halieutiques mondiales sont en voie d'épuisement, il faut penser à une première période où la production va diminuer, où l'emploi va diminuer, de façon à ce que les stocks halieutiques puissent être renouvelés. Et à ce moment-là, après quelques années, on revient à une période de croissance, mais de croissance durable, parce que justement, on aura su gérer ces réserves halieutiques. Dans le domaine, par contre, des énergies renouvelables, par exemple, c'est un domaine qui ne demande qu'un petit stimulus de la part des États pour pouvoir continuer une croissance que l'on voit déjà se présenter aujourd'hui et donc des créations d'emplois dans l'immédiat. Mais cela signifie aussi d'abord des emplois de meilleure qualité. Ça signifie aussi qu'il faut investir dans la formation et quelquefois la conversion des travailleurs et des employés.
Mais 1,3 milliards de dollars d'investissement par an. Mais est-ce que l'investissement diffère d'une région à une autre, d'un secteur à un autre?
Oui, alors justement, le rapport, tel qu'il est présenté actuellement, est présenté par secteur. Il y a une dizaine de secteurs, y compris l'agriculture, les forêts, l'eau, l'industrie, l'énergie, etc. Et on voit, en lisant ces divers chapitres, qu'effectivement, la situation globale de chaque secteur est extrêmement différente. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire donc de ne pas généraliser trop et de pouvoir analyser secteur par secteur. Par ailleurs, nous avons reçu des demandes d'un certain nombre de pays de pouvoir collaborer pour la production de rapports nationaux. Parce qu'évidemment, on ne peut pas comparer, disons, la situation du Brésil et celle des Pays-Bas. On ne peut pas comparer la situation du Burkina Faso avec celle du Guatemala. Chaque pays, évidemment, a un capital naturel, un capital humain et un capital de travail qui sont différents. Et donc, il n'y a pas de recette générale pour cette transformation vers l'économie verte, mais plutôt des principes qu'on peut appliquer pour pouvoir établir un plan spécifique pour chaque pays et je dirais même pour les grands pays, probablement des plans spécifiques pour les régions et les provinces.
Quel est le processus de transition vers cette économie verte, notamment en termes de conséquences sur les revenus et sur l'emploi?
Alors, les conséquences sur les revenus sont en fait positives si on les regarde sur une période de ne serait-ce que de 10 ans. L'une des principales recommandations en particulier, c'est de regarder ce qui se passe avec ce que nous appelons les subventions perverses, et en particulier les subventions qui poussent à une consommation plus élevée de combustible qui vont augmenter le problème de l'effet de serre. On a vu la proposition du président des États-Unis d'Amérique de réduire de 46 milliards de dollars les subventions qui vont à l'industrie du pétrole et du gaz. Donc on voit déjà que certains gouvernements essayent de prendre des mesures qui vont exactement dans cette direction.
Vous avez soulevé la question de ce projet d'Obama sur le pétrole. Vous avez donné exactement aussi l'exemple du niveau de la pêche. Mais quels sont les secteurs clés qui sous-entendent cette économie verte?
Les secteurs clés sont essentiellement l'agriculture, les forêts, l'industrie, l'énergie et aussi un secteur très important qui est celui de la construction et des économies d'énergie. C'est-à-dire que il faut aussi prendre en compte le coût de l'inaction. Et c'est ce qui a été très clairement montré dans ce rapport, c'est que l'inaction a un coût extrêmement important. Prenez l'exemple des habitations. Du fait de la façon dont l'économie fonctionne, et en particulier dans beaucoup de cas, le fait que la personne qui doit investir pour isoler thermiquement, par exemple, une maison qui est le propriétaire, n'est pas la même personne qui paye les notes d'électricité, qui est le locataire. Là, vous avez un exemple microcosmique de ce qui se passe quelquefois au niveau des pays, qui fait que finalement, l'inaction continue par inertie, alors que l'action d'investir pour, par exemple, isoler une maison et donc arriver jusqu'à 30-40% de réduction dans les coûts de l'énergie serait évidemment beaucoup plus profitable. Donc, il faut essayer de sortir de cette impasse grâce à des politiques qui permettent, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des pays, ou au niveau des régions, rentrer dans un cercle plus vertueux qui, justement, intègre les dimensions de croissance économique, d'équité sociale et de durabilité et de réduction des risques du point de vue de l'environnement.
Et qu'en est-il de la gestion des déchets et quelles sont les possibilités offertes en termes de croissance verte?
C'est l'un des secteurs dans lequel il y a un potentiel de croissance d'emploi très important, qui en ce moment est concentré dans un nombre de pays extrêmement réduit, des pays en voie de développement en général, la Chine en particulier. Et c'est un secteur aussi qui est extrêmement prometteur dans le cadre de l'économie verte pour passer d'une situation qui, du point de vue des droits du travail défendus par le BIT, sont tout à fait inacceptables dans la mesure où les gens vont ramasser des déchets dans des conditions sanitaires tout à fait déplorables. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans ce domaine. Et donc, voilà un bon exemple d'une transformation qui non seulement peut permettre de récupérer un bien économique extrêmement important qui maintenant est perdu en très grande partie et créer des emplois décents et durables là où, pour l'instant, les conditions d'emploi sont tout à fait déplorables dans beaucoup de cas.
Et le directeur exécutif du PNIE, dans ce rapport, demande de dépasser les oppositions nord-sud, développement, environnement, état, marché. Mais quel serait le rôle pivot des gouvernements?
Le gouvernement a un rôle très important à de nombreux niveaux. Premièrement, évidemment, la plus grande partie des investissements provient du secteur privé. Actuellement, les investissements, je crois, sont de l'ordre de 70% pour le secteur privé et 30% pour le secteur public. Mais l'investisseur et l'entrepreneur a besoin d'un signal clair sur les politiques, sur les normes, éventuellement les subventions, les encouragements, sur, par exemple, la certification aux consommateurs. Tout cela sont des éléments qui permettent d'orienter dans un sens ou dans l'autre la direction de l'investissement et de l'entreprise. Donc même si le gouvernement ne fait pas tout soi-même, il a un rôle extrêmement important de direction stratégique, de normes et de politique d'encouragement. Et on en voit de très nombreux exemples, que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays industrialisés. Et j'ajoute que il s'agit du gouvernement à tous les niveaux, les gouvernements centraux bien entendu, mais également les gouvernements locaux. N'oublions pas que nous allons vers une urbanisation croissante, donc les maires et les autorités locales ont une responsabilité importante et des responsabilités de plus en plus importantes dans ce domaine, à mesure que aussi la population migre vers les milieux urbains. Donc nous parlons de tous les niveaux du gouvernement, le niveau législatif, le niveau judiciaire, le niveau exécutif, à tous ces niveaux, qu'ils soient locaux ou nationaux.
Est-ce que le rapport souligne un exemple concret d'un pays qui prend de bonnes mesures en termes d'économie verte et qui peut servir d'exemple à d'autres pays?
Oui, il en cite plusieurs. Je citerai peut-être l'un d'entre eux qui est manifesté dans ce rapport et aussi dans un rapport présent que nous avions fait sur la composition des paquet financier qui avait été approuvé pour répondre à la crise. Et l'un des meilleurs exemples dans les deux domaines, que ce soit le domaine de politique qui mène vers l'économie verte ou qui avait utilisé justement ce paquet financier en 2008-2009, c'est la Corée.
Et en prévision du sommet de Rio plus 20, quelle serait aujourd'hui la mesure la plus urgente à prendre en termes d'économie verte, de croissance verte?
Je crois que l'une des mesures les plus, peut-être pas la plus urgente, mais probablement la plus importante, c'est que nous arrivions à un consensus sur le fait que nous devons avoir une mesure pour les décideurs et pour les investisseurs du progrès que nous faisons qui soit autre qu'une mesure purement de croissance économique mesurée par le produit intérieur brut. Une fois de plus, il s'agit d'intégrer les valeurs du capital naturel, la réduction des risques, l'équité, que ce soit à l'intérieur du pays ou entre les pays, et également, bien entendu, la croissance économique.
C'est sur cette note que s'achève Escale sur le rapport du PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, concernant l'économie verte, le développement durable et l'éradication de la pauvreté. Les explications sur ce document ont été fournies par Christophe Bouvier, le directeur du bureau européen du PNUE, au micro d'Alpha Diallo. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Frédéric Chouanière et Carlos Macias. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.